Chemin d'école. Je devais avoir 13 ans. Encore un séjour en métropole. Le troisième ou le quatrième depuis la fin de la guerre. J'étais de moins en moins persuadée que Paris est la capitale de l'univers. En dépit de l'existence réglée comme papier à musique que j'y menais, la pointe ouverte sur le bleu de la Darse et du ciel me manquait. Je regrettais Yvelise, mes camarades du lycée, et nos déambulations sous les sabliers de la place de la Victoire, seule distraction qui nous soit permise jusqu'à 6 heures du soir. Car alors la noirceur s'installe et, d'après mes parents, tout pouvait arriver. Sortis d'au-delà le canal Vatable, des nègres au sexe vorace pouvaient s'approcher des vierges de bonne famille et les dérespecter avec des paroles et des gestes obscènes. À Paris, je regrettais aussi les lettres d'amour que, malgré toutes les barrières dressées autour de moi, les garçons parvenaient à me glisser. Paris, pour moi, était une ville sans soleil, un enfermement de pierres arides, un enchevêtrement de métros et d'autobus, où les gens commentaient sans se gêner sur ma personne « Elle est mignonne, la petite négresse !» Ce n'était pas le mot « négresse » qui me brûlait. En ce temps-là, il était usuel. C'était le ton. Surprise. J'étais une surprise. L'exception d'une race que les Blancs s'obstinaient à croire repoussante et barbare. Cette année-là, mes frères et sœurs étant entrés à l'université, je jouais les filles uniques, rôle qui me pesait fort car il impliquait un surcroît d'attention maternelle. J'étais élève au lycée Fénelon, à 2 pas de la rue Dauphine, où mes parents avaient loué un appartement. Dans ce bahut prestigieux mais austère, je m'étais, comme à l'accoutumée, mise à dos tous les professeurs par mes insolences. Par contre, et pour la même raison, j'avais gagné le statut de meneuse et je m'étais fait pas mal d'amis. Nous traînions en bande dans un quadrilatère, délimité par le boulevard Saint-Germain, le boulevard Saint-Michel, les eaux mortes de la Seine et les boutiques d'art de la rue Bonaparte. Nous nous arrêtions devant le tabou où flottait encore le souvenir de Juliette Gréco. Nous feuilletions des bouquins à la une, nous lorgnions Richard White, massif comme un bonze à la terrasse du café de Tournon. Nous n'avions rien lu de lui. Mais Sandrino m'avait parlé de son engagement politique et de ses romans, Black Boy, Native Son et Fish Belly. L'année scolaire finit par finir et la date du retour à la Guadeloupe par approcher. Ma mère avait acheté tout ce qui pouvait être acheté. Aussi, mon père remplissait méthodiquement de grandes cantines en fer peinturé en verre. Au lycée Fénelon, le chahut, la paresse, étaient des pratiques inconnues. Pourtant, les programmes ayant été bouclés, on sentait dans les classes comme un parfum de légèreté, voire de gaieté. Un jour, le professeur de français eut une idée. « Maryse, faites-nous un exposé sur un livre de votre pays. » Mademoiselle Le Marchand était le seul professeur avec lequel je m'étais assez bien entendue. Plus d'une fois, elle m'avait donné à comprendre que ses cours sur les philosophes du XVIIIe siècle m'étaient destinés tout spécialement. C'était une communiste dont nous nous étions passés de main en main la photo en première page de l'UMA. Nous ne savions pas exactement ce que recouvrait l'idéologie communiste, entendue tout partout. Mais nous la devinions en complète contradiction avec les valeurs bourgeoises que le lycée Fénelon incarnait à nos yeux. Pour nous, le communisme et son quotidien l'UMA sentaient le soufre. Je pense que Mademoiselle Le Marchand s'imaginait comprendre les raisons de ma mauvaise conduite et me proposait de les examiner. En m'invitant à parler de mon pays, elle ne voulait pas seulement nous distraire. Elle m'offrait l'occasion de me libérer de ce qui, d'après elle, me pesait sur le cœur. Cette proposition bien intentionnée me plongea au contraire dans un gouffre de confusion. C'était, rappelons-le, le tout début des années 50. La littérature des Antilles ne fleurissait pas encore. Patrick Chamoiseau dormait informé au fond du ventre de sa maman et moi-même, je n'avais jamais entendu prononcer le nom d'Aimé Césaire. De quel auteur de mon pays pouvais-je parler? Je courus vers mon recours habituel, Sandrino. Il avait bien changé, Sandrino. Sans qu'on le sache, la tumeur qui allait l'emporter le rongeait malignement. Toutes ses maîtresses l'avaient abandonné. Il vivait dans une solitude extrême au 9e étage sans ascenseur, d'un minable garni de la rue de l'Ancienne Comédie. Car dans l'espoir de le ramener vers les amphithéâtres de la faculté de droit, mon père lui avait coupé les vivres. Il subsistait fort mal de l'argent que ma mère lui adressait en cachette, amaigri, essoufflé, sans force, tapant avec trois doigts sur une machine à écrire poussive, des manuscrits qu'invariablement les éditeurs lui renvoyaient avec des formules stéréotypées. « Ils ne me disent pas la vérité, » rageait-il. « Ce sont mes idées qui leur font peur. » Car, bien sûr, lui aussi était communiste. Une photo de Joseph Staline en grande moustache ornait sa cloison. Il s'était même rendu à un festival mondial de la jeunesse communiste à Moscou et en était revenu éperdu d'admiration pour les dômes du Kremlin, la place rouge et le mausolée de Lénine. Comme par le passé, il ne me laissait pas lire ses romans et je m'efforçais sans succès d'en déchiffrer les titres tracés au verso de chemise écornée. Pour moi, il tâchait malgré tout de retrouver son sourire de lumière et reprenait ses manières rassurantes de grand frère. Nous fouillâmes dans ses livres empilés en désordre, sur les meubles et dans la poussière du plancher. « Gouverneur de la Rosée » de Jacques Roumain. Il s'agissait d'Haïti. Il me faudrait exposer le vaudou et parler d'un lot de choses que je ne connaissais pas. « Bon Dieu rit » d'Edriss Saint-Amand, un de ses derniers amis, haïtien aussi. Nous allions désespérer quand Sandrino tomba sur un trésor. « La rue Cazenègre » de Joseph Zobel. C'était la Martinique. Mais la Martinique est l'île sœur de la Guadeloupe. J'emportais la rue Cazenègre et m'enfermais avec José Hassan. Ceux qui n'ont pas lu la rue Cazenègre ont peut-être vu le film que Zampalsy en a tiré. C'est l'histoire d'un de ces petits nègres, que mes parents redoutaient tellement, qui grandit sur une plantation de canne à sucre dans les affres de la faim et des privations. Tandis que sa maman se loue chez des béquets de la ville, il est élevé à force de sacrifices par sa grand-mère Mantine, amarreuse en robe matelassée par les rapiéçages. Sa seule porte de sortie est l'instruction. Heureusement, il est intelligent. Il travaille bien à l'école et se prépare à devenir petit bourgeois au moment précis où sa grand-mère meurt. Je pleurais à chaudes larmes en lisant les dernières pages du roman, les plus belles à mon avis que Zobel ait jamais écrites. C'était ses mains qui m'apparaissaient sur la blancheur du drap. Ses mains noires, gonflées, durcies, craquelées à chaque repli et chaque craquelure incrustée d'une boue indélébile. Des doigts encroûtés, déviés en tous sens, aux bouts usés et renforcés par des ongles plus épais, plus durs et informes que des sabots. Pour moi, toute cette histoire était parfaitement exotique, surréaliste. D'un seul coup, tombait sur mes épaules le poids de l'esclavage, de la traite, de l'oppression coloniale, de l'exploitation de l'homme par l'homme, des préjugés de couleur dont personne, à part quelquefois Sandrino, ne me parlait jamais. Je savais bien sûr que les Blancs ne fréquentaient pas les Noirs. Cependant, j'attribuais cela, comme mes parents, à leur bêtise et à leur aveuglement insondable. Ainsi, Élodie, ma grand-mère maternelle, était apparentée à des blancs pays qui, assis à deux bancs d'église d'une autre, ne tournaient jamais la tête vers nous. Dommage pour eux, car ils se privaient du bonheur de posséder une relation comme ma mère, la réussite de sa génération. Je ne pouvais en aucune manière appréhender l'univers funeste de la plantation. Les seuls moments où j'aurais pu rencontrer le monde rural se limitaient aux vacances scolaires que nous passions à Sarcelles. Mes parents possédaient dans ce coin, alors tranquille de la Basse-Terre, une maison de changement d'air et une assez belle propriété que coupait par le mi-temps la rivière qui donnait son nom à l'endroit. Là, pour quelques semaines, tout le monde, excepté ma mère, toujours sur son compte à soi, cheveux soigneusement décrépés sous sa résille et collier graines d'eau autour du cou, jouait au bitaco. Comme il n'y avait pas d'eau courante, on se bouchonnait avec des feuilles tout nus près de la citerne. On faisait ses besoins dans un toma. Le soir, on s'éclairait à la lampe à pétrole. Mon père enfilait un pantalon et une chemise de drill kaki, abritait sa tête d'un bakoua et s'armait d'un coutelas avec lequel il ne sabrait guère que les herbes de Guinée. Nous, les enfants, éperdus de bonheur d'aérer nos orteils et de pouvoir salir ou déchirer nos vieux vêtements, nous dévalions les savanes à la recherche d'icaques noires et de goyaves roses. Les verts champs de Cannes semblaient nous inviter. Parfois, intimidés par notre mine de petits citadins et notre parler français, un cultivateur nous tendait respectueusement une canne Congo dont nous déchirions l'écorce violacée à belles dents. Pourtant, j'eus peur de faire pareil aveu. J'eus peur de révéler l'abîme qui me séparait de José. Aux yeux de ce professeur communiste, aux yeux de la classe tout entière, les vraies Antilles, c'était celles que j'étais coupable de ne pas connaître. Je commençais par me révolter, en pensant que l'identité est comme un vêtement qu'il faut enfiler bon gré mal gré, qu'il vous sied ou non. Puis, je cédais à la pression et enfilais la défroque qui m'était offerte. Quelques semaines plus tard, je fis devant la classe, suspendu à mes lèvres, un brillant exposé. Depuis des jours, mon ventre traversé des gargouillis de la faim s'était ballonné, mes jambes s'étaient arquées. Mon nez s'était empli de morve, la tignasse grenée de mes cheveux s'était roussie sur ma tête sous l'effet du soleil. J'étais devenue Joselita, sœur ou cousine de mon héros. C'était la première fois que je dévorais une vie. J'allais bientôt y prendre goût. Aujourd'hui, tout me porte à croire que ce que j'ai appelé plus tard, un peu pompeusement, mon engagement politique, est né de ce moment-là, de mon identification forcée au malheureux José. La lecture de Joseph Zobel, plus que des discours théoriques, m'a ouvert les yeux. Alors j'ai compris que le milieu auquel j'appartenais n'avait rien de rien à offrir, et j'ai commencé de le prendre en grippe. À cause de lui, j'étais sans saveur ni parfum, un mauvais décalque des petits Français que je côtoyais. J'étais peau noire, masque blanc, et c'est pour moi que Frantz Fanon allait écrire.